VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 15 juin 2016. Au sommaire ce soir.
Au Tchad, deux des jeunes accusés de viol sur une lycéenne se sont évadés de la prison de N'Djamena.
Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko est en garde à vue depuis hier après un interrogatoire par les services secrets.
Retour ce soir sur la tuerie d'Orlando. Les enquêteurs se penchent aujourd'hui sur le rôle de l'ex-femme du tueur et ses visites répétées au bar où a eu lieu le carnage du 12 juin.
John Kerry met en garde la Russie sur le respect de l'accord de cessation des hostilités en Syrie.
Et plein feu sur l'Euro 2016, juste après le journal. Au Tchad, deux fils de dignitaires qui ont violé une jeune lycéenne en février à N'Djamena se sont évadés de la prison où ils avaient été incarcérés en attendant leur jugement. On fait le point avec André Konmajingar.
Les autorités judiciaires ont qualifié en son temps l'acte posé par ces présumés de criminels et donc il faut nécessairement une instruction préparatoire. C'est ainsi qu'après le premier interrogatoire au fond à la prison de Korotoro, le juge en charge du dossier a exigé qu'il soit transféré à N'Djamena pour la suite de l'enquête. Après une tentative de confrontation avec la victime, le juge d'instruction a organisé une confrontation avec les accusés eux-mêmes. Confrontation à l'issue de laquelle il a retenu un non-lieu contre deux d'entre eux et a renvoyé les six autres à la chambre d'accusation. Le dossier suit son cours et c'est le jeudi prochain que le procès doit se tenir devant la chambre d'accusation. C'est pendant ce temps que les présumés Tidjane Abdoulaye Miss et Agar Mahamad Brahim se sont évadés de la maison d'arrêt de N'Djamena. Le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, Mahamadou Ribédou, parle d'une complicité entre les agents de sécurité et les parents de ces évadés. Car, selon lui, ces détenus sont sortis par la porte sous prétexte qu'ils ont reçu de la visite des parents pour prendre la poudre d'escampette. Première conséquence, les autorités judiciaires ont mis aux arrêts le chef de sécurité de la maison d'arrêt, Adoum Nokou, et son adjoint Mahamad Gouni, ainsi que les deux agents de sécurité qui étaient en fonction ce jour. Le régisseur de la maison d'arrêt, lui, est relevé de ses fonctions. Les quatre qui restent en détention sont privés de la visite des parents. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko est en garde à vue depuis hier. Il est retenu par les services secrets congolais. Le point avec Eric Manirakiza.
Aucune infraction ne lui a été notifiée selon la défense du général Jean-Michel Mokoko. Le seul motif qui le retient, raison d'enquête, précise la même source. Depuis ce mardi à 11h heure locale, il est interrogé à la Direction générale de surveillance du territoire sur ses liens avec certains individus dont on ne connaît pas encore l'identité. Selon la procédure, la garde à vue dure 72 heures, mais peut être prolongée de 48 heures. Après ces délais, le général Mokoko devrait retrouver sa liberté ou déférer devant un magistrat. Un de ses assistants qu'il a vu ce matin affirmait que M. Mokoko se portait bien. Candidat malheureux de la présidentielle du 20 mars dernier, le général Mokoko a été assigné à résidence depuis début avril. Il conteste la réélection du président Denis Sassou Nguesso. La veille de sa comparution, le général Mokoko a dit à VOA Afrique qu'il ne peut pas reconnaître les résultats d'une élection biaisée, précisant également que son traitement était devenu inacceptable.
Au Burundi, 700 élèves d'une école doivent payer pour remplacer des manuels scolaires dont les photos du président Pierre Nkurunziza ont été abîmées. Et dans le cas échéant, ils ne passeront pas les examens de fin d'année. Maëlys Segol.
Dans la commune de Taungwa, au nord de la capitale Bujumbura, ces élèves de 14 à 17 ans sont accusés de gribouillis sur une photo de Pierre Nkurunziza dans des manuels scolaires. Léopold Niungeko, le directeur de l'enseignement de l'école fondamentale Kamara, a décidé lundi que chacun allait payer 700 francs burundais pour remplacer ces manuels abîmés. Selon Léopold Niungeko, ces élèves ont commis une faute très lourde et ceux qui n'ont pas encore payé ne passeront pas les examens de fin d'année qui ont déjà commencé. Certains parents d'élèves assurent que les autorités leur ont imposé de payer. Une dizaine d'écoles sont concernées dans le pays. Des centaines d'élèves ont déjà été provisoirement renvoyés et d'autres ont été réintégrés. Quatre élèves de la province de Kankuzo, dans l'est du pays, ont été interpellés mardi et mercredi. 11 autres ont été inculpés d'outrage au chef de l'État et écroués le 3 juin à Muramvya, dans le centre du Burundi.
Un processus de paix au Mali, le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de 2015 se sont entendus sur la création d'autorités intérimaires dans les 5 régions administratives du Nord. Elles remplaceront les collectivités territoriales. Le retard de l'application de cette disposition de l'accord constituait un point de blocage. Cela avait conduit les groupes pro-Bamako, aussi bien que ceux de l'ex-rébellion, à boycotter depuis près de 2 mois certaines instances de l'accord.
Au Nigeria, près de 700 personnes ayant fui les violences de Boko Haram ont été hospitalisés à Maïdougouri dans un état de malnutrition. Parmi eux, une grande majorité d'enfants, précisent les autorités locales.
Soudan du Sud, le nombre d'attaques contre les humanitaires est en augmentation. 3 personnes ont été tuées en mai, indique le Bureau de coordination aux affaires humanitaires de l'ONU. Depuis le début de la guerre, 55 travailleurs humanitaires ont été tués dans le pays.
En Libye, la bataille pour Sirte continue. Encerclé par les forces pro-gouvernementales, le groupe État islamique multiplie les contre-offensives pour desserrer l'étau autour de leur fief. Les djihadistes contrôlaient cette ville côtière depuis juin 2015.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, le tueur qui a commis un massacre au nom du groupe État islamique dans un bar gay d'Orlando en Floride, où il semblait avoir ses habitudes, était un jeune homme en colère, dérangé et instable qui s'est radicalisé, a déclaré hier soir le président Barack Obama. Nathalie Barge.
Lors d'une allocution, le président américain a dressé le portrait d'Omar Mateen, qui a attaqué dimanche une boîte de nuit à Orlando, faisant 49 morts et 53 blessés. Parmi les 22 blessés toujours à l'hôpital, 6 sont dans un état critique. Barack Obama s'en est aussi pris au candidat républicain Donald Trump pour sa rhétorique sur les musulmans. Monsieur Obama ira demain jeudi à Orlando pour rendre hommage aux victimes et apporter son soutien à la communauté homosexuelle. Omar Mateen avait déjà été placé sous surveillance par le FBI, mais n'avait rien révélé de suspect. Son épouse Noor Mateen est interrogée par la police fédérale et coopère avec les autorités. Certains médias évoquent l'homosexualité cachée du tueur, affirmant qu'il fréquentait le Pulse et utilisait des applications pour des rencontres gays. Ce carnage vient relancer le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Une pétition contre la vente de fusils d'assaut semi-automatiques à des civils a recueilli plus de 400 000 signatures.
Le chef de la diplomatie américaine John Kerry a adressé ce mercredi une mise en garde à la Russie et Bachar al-Assad sur la nécessité de respecter la cessation des hostilités. La Russie doit comprendre que notre patience n'est pas infinie. En fait, elle est même très limitée quant au fait de savoir si Assad va ou non être mis devant ses responsabilités et faire taire les armes sous la pression de son allié russe, a-t-il dit. John Kerry s'exprimait à Oslo, en Norvège, à la suite d'un entretien avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif.
Les combats pour le contrôle de Fallujah se poursuivent avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer pour la population civile. Déjà plus de 40 000 civils ont fui cette ville de l'ouest irakien, mais des dizaines de milliers d'autres restent pris au piège. Malgré le couloir sécurisé ouvert samedi par l'armée, les mines et tireurs d'élite des djihadistes rendent très dangereuse la sortie de Fallujah. Lancée le 23 mai, l'offensive a permis aux forces irakiennes de reconquérir une bonne partie de la périphérie de cette ville, située sur le Frat, à une cinquantaine de kilomètres de Bagdad.
Le président François Hollande a annoncé que les manifestations pourraient être interdites dans les prochains jours en France si la préservation des biens et des personnes ne peut être garantie, a rapporté le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Cette mise en garde intervient au lendemain d'une nouvelle manifestation violente à Paris contre la loi travail, dans laquelle 40 personnes, dont 29 policiers, ont été blessées et 44 placées en garde à vue. Des dégradations ayant visé un hôpital pour enfants, l'hôpital Necker, ont particulièrement choqué l'opinion.
Le chef de l'opposition israélienne, Isaac Herzog, a accusé aujourd'hui le Premier ministre Benjamin Netanyahou de mettre en danger la sécurité d'Israël, après que le président américain Barack Obama eut annoncé s'opposer à une augmentation de l'aide militaire à ce pays. La Maison-Blanche a annoncé mardi dans une lettre au Congrès qu'elle était opposée à une aide supplémentaire de 455 millions de dollars pour le programme antimissile israélien.
La saison des élections primaires aux États-Unis a officiellement pris fin mardi avec la victoire facile de l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton dans la capitale fédérale. Cette victoire cimente davantage le statut de Mme Clinton comme candidate du Parti démocrate en vue de la présidentielle de novembre. À l'issue d'une rencontre privée hier soir entre la candidate et son adversaire Bernie Sanders, le sénateur du Vermont a rappelé ses objectifs pour la convention de juillet.
Il a promis de lutter jusqu'au bout pour que la plateforme du Parti démocrate représente les familles de travailleurs et les personnes à faible revenu. Sanders a aussi réaffirmé sa volonté de travailler d'ici au 8 novembre pour barrer la route à Donald Trump. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Sur VOA Afrique, le journal des sports consacré en grande partie à l'Euro 2016 en France et à la 100e édition de la Copa América ici aux États-Unis avec Timothée Donangmaï. Salut Timothée.
Bonsoir Gabi.
Alors l'Euro 2016 amorce ce mercredi la deuxième journée de la phase de groupe.
Et oui Gabi, dans le groupe B, la Slovaquie se relance en battant la Russie 2-1. Retour sur ce match avec notre correspondant à Paris, Christian Panzou.
Revanchard, les Slovaques ont très vite donné le ton d'une rencontre déjà décisive pour l'avenir des deux équipes dans la compétition. Sous pression, la Slovaquie n'avait pas le droit à l'erreur. Une défaite aurait d'ores et déjà éliminé la sélection de Jan Kozak. Sous le toit fermé du stade Pierre-Mauroy, les Russes animent le premier quart d'heure du match en se procurant quelques occasions. Mais ce sont les Slovaques qui ouvrent le score. Bien trouvé par Marek Hamšík, Vladimir Weiss élimine son vis-à-vis grâce à un crochet dans la surface et trompe le gardien russe à la 32e minute. Juste avant la mi-temps, la Slovaquie inscrit même un deuxième but, une frappe enroulée sublime signée Marek Hamšík qui figurera certainement parmi les plus beaux buts du tournoi. La Russie réduit l'écart à 10 minutes du terme, mais la défense slovaque reste solide jusqu'au coup de sifflet final pour assurer une victoire primordiale avant le troisième match de groupe contre l'Angleterre. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Merci Christian. Avec un point au compteur, les Russes sont tenus à l'impossible lundi face au pays de Galles. Et dans le groupe A, la Roumanie affronte ce soir la Suisse 1-0 à la mi-temps pour les Roumains. Un but partout à quelques 5 minutes de la fin de cette partie. Et plus tard, la France joue contre l'Albanie.
Alors hier, dans le groupe F, qu'est-ce qui s'est passé Timothée?
Alors l'Autriche s'est inclinée face à la Hongrie 2-0 et l'Islande, Gabi, a créé la surprise en arrachant un nul, un but partout face au Portugal.
Le tableau des matchs de jeudi?
Alors l'Angleterre, un point croise l'offert avec les Pays-Bas, les Pays de Galles, le Pays de Galles leader du groupe avec 3 points. Et dans le groupe C, duel des leaders, Allemagne-Pologne, 3 points chacune et Ukraine-Irlande du Nord, 0 points chacune.
Ce qui nous amène au coup de sifflet de Jules Valentin Gouet. Jules est en ligne avec nous, Timothée.
Eh oui, le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonsoir. La revue d'effectifs de la première journée vient de s'achever sur un surprenant score de parité entre l'Islande et le Portugal. C'est l'occasion de tirer les premières leçons de ce tournoi qui ne fait que commencer. Il y a d'abord cette accumulation de matchs aux résultats très serrés, révélateur du nivellement de valeur qui caractérise désormais le football européen. Mais il faut aussi mettre cette tendance au crédit des plus petits, encore suffisamment en jambes en début de tournoi pour contrarier les gros empêtrés dans les derniers réglages. Ce ne sont pas les Français, les Portugais, et les Autrichiens, et même des Russes ou les Anglais qui nous démentiront. Pour l'heure, les équipes ont gagné le premier match et ont fait leur moitié de chemin, car seules 8 formations sur les 24 présentes seront éliminées au premier tour. Voilà. Certes, le retour de la Hongrie et le coup d'éclat de l'Italie ont apporté des sensations à un tournoi encore marqué par la retenue des tenants, et les vedettes confirmées sont discrètes, à l'exception de Luka Modric, d'Iniesta ou du gardien allemand Neuer. Mais attention, la compétition est longue et elle ne fait que commencer. Tout est encore possible, alors faites vos jeux, rien ne va plus.
Merci Jules Valentin Ngwe. Alors rapidement, en quelques secondes, Timothée, la Copa América.
Alors c'est jour de repos aujourd'hui, mais on passe au quart de finale dès demain avec États-Unis-Équateur, vendredi Pérou-Colombie, samedi Argentine-Venezuela et dimanche Mexique-Chili.
Merci Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Plus de 400 parlementaires d'une soixantaine de pays ont fini hier à Genève une réunion de la conférence parlementaire sur l'Organisation mondiale du commerce. Les participants ont insisté qu'il était de la plus haute importance que tous les membres de l'OMC mettent en œuvre les décisions du cycle de Doha, parmi lesquelles la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges. La justice algérienne, saisie par le gouvernement, a gelé le rachat du groupe de presse El Khabar par l'industriel Izzat Rebrad, première fortune du pays. M. Rebrad, déjà propriétaire du quotidien francophone Liberté, a dépensé environ 40 millions d'euros pour s'offrir El Khabar. Le milliardaire a souvent accusé Alger de faire obstacle à ses projets d'investissement dans le pays et à l'étranger. La Banque centrale américaine devrait prolonger sa pause sur les taux d'intérêt. Ces nouvelles prévisions économiques retiendront toutes les attentions alors que les marchés cherchent à savoir, 6 mois après le premier relèvement des taux survenu en décembre dernier, si la Fed prévoit toujours de hausser les taux cette année. Les taux directeurs américains évoluent actuellement entre 0,25% et 0,50%.
Morgane Guériec, Chérubin, Gabi Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, la Gambie.
La Gambie, qui est à moins de 6 mois des élections présidentielles en juillet. Le pays va aussi célébrer 22 ans de pouvoir avec le président Yahya Jammeh. Depuis qu'il dirige le pays, des militants, des journalistes, des opposants politiques vivent dans la peur. Alors sur le climat préélectoral en Gambie, Tatiana Mosso a joint Aliou Ntine, directeur Afrique de l'Ouest à Amnesty International Dakar.
Sur le plan politique, nous avons l'impression d'avoir affaire à une espèce de citadelle de la terreur, où il est dangereux pour des opposants, pour des activistes de droits humains et pour des journalistes tout simplement d'articuler toute forme de dissidence sous forme de discours ou d'attitude vis-à-vis de Yahya Jammeh. Ça se paye cher, ça se paye par la perte de liberté, donc vous pouvez être détenu de façon arbitraire parce que vous avez demandé tout simplement des élections transparentes et démocratiques. Vous pouvez être torturé et mourir, effectivement, c'est le cas de Solo Sendeng qui a été torturé, qui est mort. Et jusqu'ici, ses parents n'ont même pas vu le corps. C'est le cas également de deux grandes dames, Fatou Camara, Noko Ndiaye, qui sont tout le temps détenues.
Sur le plan politique aujourd'hui, l'opposition, quelle marge de manœuvre elle a face à Yahya Jammeh, face aux autorités gambiennes?
C'est-à-dire, très, très sincèrement, si effectivement il n'y a pas dialogue politique par une tierce personne, je pense que c'est ce qu'envisage la CDAO. Il y a 3 chefs d'État qui risquent de partir pour quand même essayer d'engager un dialogue entre l'opposition et Yahya Jammeh pour un consensus sur les règles du jeu. Si effectivement ce consensus n'existe pas sur les règles du jeu, ça veut dire tout simplement qu'on va vers l'incertitude, comme on a l'habitude de le faire. Il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la Commission nationale électorale. Tout cela, ça pose de vrais problèmes pour l'avenir des élections, pour la transparence des élections et même pour l'organisation d'élections pacifiques. Et nous savons qu'à l'approche des élections, souvent quand les élections sont contestées, quand les organes de régulation sont contestés, mais il faut prévoir quand même les violations des droits de l'homme, il faut prévoir des révoltes, il faut prévoir quand même que les gens sortent dans la rue. Tout cela est prévisible. Je pense que la CDAO, le dernier sommet, en a pris conscience pour dire qu'ils vont effectivement envoyer des chefs d'État pour rétablir le dialogue.
Quels sont les rapports entre les autorités gambiennes et par exemple des ONG comme la vôtre ou encore des institutions comme la CDAO ou les Nations Unies qui ont déjà pointé du doigt à plusieurs reprises certains dérapages?
Il a bien dit que Amnesty International et que Ban Ki-moon n'ont qu'à aller en enfer. C'est un compliment qu'on fait à Amnesty International quand même qui dénonce. Les rapports ne sont pas les meilleurs avec les Nations Unies.
Y a-t-il encore un dialogue possible avec Yahya Jammeh?
Ça va être très compliqué parce que Yahya Jammeh, c'est un véritable dictateur et on a l'impression que la Gambie, c'est sa chose. La situation qui prévaut en Gambie, en Afrique de l'Ouest, la Gambie est une bombe à retardement pour l'Afrique de l'Ouest. À la CEDEAO, les gens en ont pris conscience, aux Nations Unies aussi.
Alioune Tine, directeur Afrique de l'Ouest, Amnesty International, à Dakar.
Jacques Aristide avec vous au menu de Washington Forum ce jeudi. L'attentat d'Orlando et toutes les questions qu'il suscite. Omar Mateen a-t-il tué à la fois par haine de l'Occident et par homophobie? Quels étaient ses liens avec les groupes djihadistes? La tuerie est-elle un exemple du terrorisme intérieur? Quel impact sur la campagne présidentielle et le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi. À 19h10.
Marche pour la paix au Mali. Les altermondialistes ont encore manifesté leur soutien à l'initiateur de la deuxième édition de la Route pour la paix. La marche est partie de la cour d'appel de Bamako pour la Tour de l'Afrique. En plus des responsables des fédérations pour la paix dans le monde, il y avait des ambassadeurs pour la paix. On fait le point avec Kassim Traoré.
Cette marche est partie de la cour d'appel de Bamako pour la Tour d'Afrique, lieu symbolique pour la paix, la réconciliation et l'unité. Par Ferdinand, secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, section Mali.
Nous voulons amener la paix, mais la paix ne saurait être réalisée que si nous sommes divisés. Alors le fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Sam Yamoun, a eu l'initiative de créer une autoroute qui va passer du Cap de Bonne-Espérance jusqu'en Chili pour rejoindre tous les continents ensemble. Donc si les continents sont rejoints ensemble, cela veut dire que nous devenons un seul village. Là, où tu peux aller en voiture comme tu veux, ça peut amener l'unité au lieu de créer les barrières qu'il y a entre nous.
Dans son allocution, le président de la Fédération des familles pour la paix mondiale, section Mali, Maître Jules Dambélé, avocat à la cour, a salué la forte mobilisation des Bamakois.
Après la première édition célébrée victorieusement, c'était le 19 juin 2015 dans notre nation, nous voilà aujourd'hui tenir la deuxième édition en ce lieu si beau, si symbolique pour la paix, la réconciliation et l'unité. Votre présence massive à cette rencontre nous honore et honore tout le Mali.
Les femmes ne sont pas restées en marge de cette grande mobilisation. Pour la présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, le temps est venu pour les pays du monde de regrouper leurs ressources. Dambélé Catherine Diarra.
Nous voyons que dans le monde, les femmes sont les plus touchées quand il y a la guerre, que nous soutenons la paix dans notre nation, dans nos familles, dans notre société et dans le monde. Et aussi, comment dans la famille, la femme peut jouer son rôle en tant que mère pour vraiment promouvoir la paix dans la famille, avec son mari, avec ses enfants et étendre cela dans la société et dans le monde.
Parmi les marcheurs du jour, il y avait des ambassadeurs pour la paix mondiale, à l'image d'Ibrahima Tomota.
Dans ce mois béni de Ramadan, étant pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, en jeûne, vous avez bravé tous les défis pour répondre présent à ce rendez-vous de l'histoire. Festival Route de la paix a été initié par le docteur Son Myung Moon et son épouse Ak Jak Han Moon en Corée, puis s'est étendu rapidement dans le monde entier. Ce festival qui est aujourd'hui célébré dans plus de 120 pays de par le monde constitue un outil redoutable pour atteindre la paix.
Cette marche pour la paix s'inscrit dans le cadre des activités de la deuxième édition intitulée Route pour la paix, une initiative qui est célébrée à travers le monde. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Guinée, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont poussé plusieurs jeunes à se lancer dans les activités de blogueurs. Ils sont très actifs et participent à des campagnes numériques pour alerter.
Pour la soixantaine de blogueurs guinéens, même si l'activité est secondaire, mais elle s'inscrit dans la promotion de la citoyenneté. Fodesan Kinkouyaté, président de l'Association des blogueurs de Guinée, Ablogi.
Nous sommes des journalistes citoyens. En fait, nous, notre credo, vraiment, c'est de nous intéresser à tout ce qui n'est pas forcément relayé dans les médias classiques. Donc, nous nous intéressons à notre vie, à nous-mêmes d'abord, dans les quartiers, mais aussi nous nous intéressons à ce qui se passe sur le plan national, tout ce qui est d'ordre politique, tout ce qui est d'ordre social, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est mobilisation citoyenne pour une cause.
Les blogs, fruits des nouvelles technologies de l'information et de la communication, amorcent une ascension, surtout au moment où la presse écrite guinéenne semble prendre l'eau. La Blogui veut s'impliquer dans l'évaluation de la gestion de l'État.
Le projet vise à suivre et à évaluer le niveau de réalisation des promesses qui ont été faites par le président Alpha Condé en période électorale, mais aussi en cours de mandat, ainsi que les promesses faites par son gouvernement en ce moment même. Donc c'est un projet citoyen dont l'objectif est justement de donner le pouvoir aux citoyens en les impliquant dans la gouvernance, en les amenant à montrer aux politiques que quand vous faites des promesses, vous devez les tenir, que les politiciens doivent tenir leurs paroles, parce que c'est en cela qu'on peut se développer.
Les blogueurs guinéens sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils sont à l'origine de plusieurs campagnes sur la toile. Aboubacar Franck Camara, membre d'Ablogi.
Et lorsque nous avons remarqué que les Guinéens n'avaient plus droit de prendre des cartes d'identité et que les Guinéens qui vivent en dehors du pays n'avaient pas la possibilité de se procurer des passeports biométriques, notre ONG Ablogi a mené une campagne numérique. On mène des campagnes sur les réseaux sociaux comme les Twitter, Facebook, ainsi de suite, pour mobiliser les gens afin que, pour attirer l'attention des autorités ou bien des parties prenantes.
Début juin, plusieurs web activistes de l'Ablogi avaient mené en vain sur la toile une campagne avec le hashtag Loi cyberinsécurité. Mais la loi sur la cybersécurité a été adoptée. Elle prévoit une lourde sanction contre les lanceurs d'alerte. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Tchad, ce 15 juin marque le premier anniversaire du double attentat de kamikaze perpétré au cœur même de la capitale tchadienne par la secte Boko Haram. Un an après, on se souvient. De N'Djamena, André Colmadjingar.
Ce 15 juin, c'est une journée qui va me marquer toute ma vie. J'en garde un mauvais souvenir.
Commissaire Ngemajita Tadi Orbe, un des rescapés de l'attentat suicide du 15 juin 2015 devant le commissariat central de la ville de N'Djamena, se rappelle de cette journée cauchemardesque. Une journée pas comme les autres, car ce double attentat simultané faisant 34 morts, dont 3 kamikazes et 105 blessés, a traumatisé toute la population. Attentat suicide revendiqué par la nébuleuse Boko Haram en réponse au déploiement des soldats tchadiens en janvier de la même année pour lutter contre cette organisation aux côtés des forces armées nigérianes, camerounaises et nigériennes. Commissaire Ngemajita Tadi Orbe nous raconte comment il a échappé à la mort.
Je ne veux plus être de ce monde parce que lorsqu'il a lâché sa charge entre moi et là où le kamikaze a sauté, il y avait un véhicule. C'est ce qui a eu à me protéger. J'ai eu une blessure au niveau du flanc gauche. C'est éclat que j'ai reçu lorsque le kamikaze a lâché sa décharge. Imaginez quelqu'un qui sort de la maison bien portante et qu'il revienne en mini morceaux dans sa famille. Dieu merci, je suis un croyant. La voix m'a sauvé.
Une dame qui a perdu son fils, élève policier, dans l'autre attentat suicide le même jour dans les locaux de l'école de police, se rappelle également cette triste journée du 15 juin 2015.
Je m'appelle Elisabeth Kouago. J'ai perdu mon fils, Ezaï Kemti, âgé de 24 ans, dont je prie pour le repos de son âme. Je ressens toujours la douleur. L'État nous a parlé qu'il va nous prendre en charge. Jusqu'à là, on ne voit rien. Il nous a parlé même des remplacements numériques. Jusqu'à là, la promesse n'est pas tenue.
À la veille de ce triste anniversaire, les autorités communales ont décidé de réglementer l'heure de fermeture de tous les marchés urbains jusqu'à nouvel ordre. Ali Haroun est le maire de la ville.
Il faut toujours être vigilant. Une fois de plus pour cette année 2016, nous allons demander l'indulgence des habitants et habitantes de la ville de N'Djamena à partir de 17h.
reportage d'André Kodmajinga. N'Djamena.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la présentation, à la console Jougil, présentation Morgan Gariak et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.